Que le nom du Seigneur soit béni. Son désir est toujours de nous attirer plus près de lui, plus près de son cœur, afin que notre foi soit toujours renouvelée, fortifiée, et que nous puissions toujours plus l'aimer de tout notre cœur. Amen. Les paroles que je voudrais vous apporter ce soir vont encourager, je l'espère, les enfants de Dieu. Et le Seigneur voudrait nous dire, vous dire, te dire que Dieu a fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on médite ensemble sur ce sujet les grandes choses que Dieu a fait pour nous, pour vous, pour toi, les grandes choses. Nous devons le réaliser. Si nous ne réalisons pas les grandes choses que Dieu a faites pour nous, nous serons toujours en train de quémander, de mendier, de vivre comme des mendiants, alors que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Peux-tu dire ce soir que Dieu a fait de grandes choses pour moi? Peux-tu le dire sincèrement? C'est très important que nous puissions réaliser cela. Et si tu le dis, c'est la vérité. Dieu a fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et il y a tellement de grandes choses que il nous faudrait des heures et des heures pour le dire. Mais j'aimerais m'arrêter sur trois vérités importantes, trois grandes choses que Dieu a faites pour toi et pour moi. La première grande chose, nous allons la trouver dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. On peut déjà lire à partir du verset 1er. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, ah, j'aime bien les mets divins, amen. Les mets humains sont dangereux, mais les mets divins sont merveilleux, alléluia. Mais, quand Dieu dit mais, c'est merveilleux, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du, ah, c'est là qu'il faut souligner maintenant, la grande chose que Dieu a fait pour toi et pour moi, mais à cause du grand d'amour dont il nous a aimés. Voilà la première grande chose. Dieu nous a aimés d'un grand amour. Il n'est pas dit ici d'un petit amour, mais d'un grand amour. Voilà la première grande chose que Dieu a faite pour toi. Il t'a aimé d'un grand amour. Rien que ça, ça devrait déjà nous faire sauter de joie. Alléluia! Un grand amour. Amen. Vous pouvez dire amen de temps en temps. Moi, ça ne dérange pas. Ça ne dérangera pas le Seigneur, surtout. Amen. Quand ça vient du fond du cœur. Un grand amour. Il nous a aimés d'un grand amour. Allons juste encore quelques versets plus loin. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses et par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. C'est des termes extraordinaires. Vous êtes d'accord avec moi? L'infinie richesse de sa grâce. Mes amis, nous n'avons pas fini de puiser dans cet amour extraordinaire que Dieu a révélé pour nous. Amen. Première grande chose, il t'a aimé d'un grand amour. Amen. Je vais lire les trois versets, parce que si je ne les lis pas maintenant, après, quand on est parti, on ne peut plus s'arrêter. La deuxième grande chose maintenant, Hébreux, chapitre 2, verset 3, un passage aussi très important et en même temps très solennel, une autre grande chose. Hébreux, chapitre 2, on peut lire les quatre premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors ici, il y a une deuxième grande chose. Dieu nous avertit de ne pas négliger un si grand salut. Un si grand salut. Le salut que Dieu nous a donné est un grand salut. Alléluia. Et il ne faut pas le négliger. Pas le négliger, ce grand salut. Comme les chrétiens, les premiers chrétiens là, dans Hébreux, commençaient à négliger les grandes choses, le grand salut que Dieu leur avait accordé. Et l'apôtre, voyant ce danger, leur dit « Attention, attention, ne soyez pas emportés loin de ces grandes vérités, de ce grand amour, de ce grand salut, de ces grandes vérités. Attention, nous pouvons perdre ces choses, nous pouvons mésestimer ces choses, nous pouvons sous-estimer ces choses, nous pouvons nous éloigner de ces choses. » C'est pourquoi nous devons veiller à ce grand salut. Amen. Ce sont de grandes choses. C'est un grand trésor que nous devons veiller avec une grande attention. Alléluia. Et une troisième grande chose, nous trouvons cela dans l'Épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, 4, il est dit ici, on peut déjà lire à partir du verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Voyez-vous, encore une grande chose que Dieu a faite pour nous. Il nous assure de grandes promesses. Amen. De grandes promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Il y a donc là trois grandes choses que Dieu a faites pour nous. Et chaque chrétien doit bien réaliser cela. Nous avons un grand Dieu qui a fait de grandes choses. Amen. Nous avons un grand Sauveur qui nous a aimés d'un grand amour, qui a accompli un grand salut pour nous délivrer d'une grande éternité en enfer, pour nous introduire dans une grande félicité éternelle. Alléluia! Tout ce que Dieu fait est grand. Et le danger, la tentation des hommes et des chrétiens et de négliger ce que Dieu a fait. Amen. Nous ne devons pas être comme les Israélites dans le désert, qui pendant 40 ans, Dieu leur a donné la manne. Et vous savez qu'au bout de 40 ans, ils se sont lassés. Ils n'ont même pas attendu 40 ans, mais ils se sont bien lassés. Ils ont dit, ah, encore de la manne. Ils voyaient la manne, encore de la manne, on en a assez de cette manne, on en a assez. Ils ne réalisaient pas que c'était un miracle. Amen. Un miracle. Dieu, dans son amour, leur donnait tout ce qu'il fallait. Mais voilà que eux commençaient à mal réagir à toutes ces grandes bénédictions. Amen. Toutes ces grandes bénédictions que Dieu leur donnait. C'est pourquoi nous devons toujours bien réaliser tout ce que Dieu fait pour nous. Amen. Amen. Marie elle-même, quand elle exprimait sa joie, disait « Mon âme se réjouit dans le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante et il a fait pour moi de grandes choses. Et chacun d'entre nous peut dire cela, que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Car l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que ce que Dieu a fait n'est pas grand, que c'est ce qu'il fait lui qui est grand. Nous devons toujours réaliser que ce que Dieu a fait est grand. Et il veut que nous réalisions que nous sommes, que tu es aimé ce soir et tous les jours de ta vie, que tu as été aimé, que tu es aimé d'un grand amour. Amen. D'un grand amour. Là encore, ce sont des vérités qui nous dépassent. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'acceptent pas cette vérité dans leur vie, tout simplement. Ils ne l'acceptent pas. Ils jugent l'amour de Dieu d'après leurs expériences, d'après leurs propres sentiments, parce qu'ils ont été rejetés par l'un ou par l'autre. Parce qu'ils n'ont pas été aimés par l'un ou par l'autre, alors ils pensent que Dieu fait la même chose, que Dieu ne les aime pas vraiment. Quelle erreur! Quelle erreur! Qui n'a pas été rejeté dans cette vie, n'est-ce pas vrai? Qui? Nous passons tous par des épreuves ainsi. Mais nous devons réaliser une chose, c'est que l'amour de Dieu ne se mesure pas à l'amour des hommes. La parole de Dieu nous dit que même si ta mère t'abandonnait, l'Éternel Dieu ne t'abandonnerait jamais. Je t'aime d'un amour éternel, nous dit la parole. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Il veut nous attirer à lui par ses cordages d'amour. S'il y a une vérité que tout chrétien doit réaliser, doit accepter, doit confesser, doit méditer dans sa vie, c'est « Seigneur, je sais que tu m'as aimé d'un grand amour. » Amen. Je sais, je suis convaincu que je suis aimé, que j'ai été aimé d'un grand amour. Et vous savez, quand il est dit ici, voyez-vous, vous étiez morts par vos offenses, nous étions tous des fils de la rébellion. Et il est dit ici, nous étions tous de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Autrement dit, nous avons fait des choses qui méritaient le jugement de Dieu. Vous et moi, chacun d'entre nous ici, nous avons fait des choses qui méritaient le jugement de Dieu, qui méritaient la colère de Dieu. Nous devons le réaliser. Et ensuite il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Vous savez qu'il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu nous accorde et que nous ne méritons pas. Amen. C'est cela, hein? On dit toujours la grâce, c'est justement ce que Dieu nous accorde et que nous ne méritons pas et que nous ne mériterons jamais. Mais la miséricorde, c'est Dieu qui retient le jugement, qui retient le jugement que nous méritons. Chacun d'entre nous, nous méritons le jugement de Dieu, mais dans sa miséricorde, il retient ce jugement. C'est cela la miséricorde. C'est Dieu qui retient le jugement que nous méritons, que tu mérites. Et la grâce,
C'est Dieu qui nous accorde des bénédictions que nous ne méritons pas. N'est-ce pas merveilleux? C'est son grand amour qui fait cela. C'est cela l'expression de son grand amour. Lorsque je dis, tu dis, Seigneur, tu m'aimes dans grand amour, cela veut dire, Seigneur, je méritais ton jugement. Je t'ai offensé de tant de manières, en pensée, en parole et en action, je t'ai offensé. Peut-être que les hommes ne l'ont pas vu, mais dans le secret de mon cœur et de ma chambre et de ma vie, je t'ai déshonoré, je t'ai offensé, j'ai blessé ton cœur, je mérite le jugement, mais merci pour ta miséricorde. Le jugement que je méritais, tu le retiens. Quel amour! Alléluia! Et la grâce de Dieu, Seigneur, tu me bénis maintenant de bénédictions que je ne mérite absolument pas. Là encore, lorsque nous comprenons cette grâce merveilleuse, nous ne pouvons que dire quel amour! Le jugement que je mérite, il ne me le donne pas. Et les grâces que je ne mérite pas, il me les accorde. Alléluia! Où trouver un tel grand amour? As-tu réalisé cela? Mes amis, il nous faut toujours réaliser cela. Car la plupart des problèmes que beaucoup de chrétiens ont proviennent de cela. Provient de ce qu'on ne comprend pas d'où Dieu nous a sortis. Amen. L'apôtre Paul lui-même le disait constamment, qu'il n'oubliait jamais d'où le Seigneur l'a sorti. Autrefois, il disait, j'étais un persécuteur, un malfaiteur, j'ai persécuté l'Église. Il réalisait la miséricorde de Dieu. Il avait tant fait de choses qui méritaient le jugement. Mais Dieu a suspendu ce jugement. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, nous dit la Bible. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quel amour! Amen! Quel amour! Je méritais le jugement et Jésus l'a porté à ma place. Et les grâces qu'il m'accorde, je ne les mérite pas. Il me les donne cependant. Si je réalise cela, mes amis, alors nous ne pouvons que dire quel amour tu as eu pour moi. Je ne mérite rien. Et il est bon de réaliser cela afin que nos cœurs ne s'enorgueillissent pas. Car la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du grand nombre se refroidira, se refroidira. La Bible parle que dans les fins des temps, il y aura des cœurs tièdes. Le cœur tiède, un cœur qui n'est plus bouillant, c'est un cœur où l'amour, où on peut faire beaucoup de choses, mais où l'amour n'est plus comme avant. On ne réalise plus ce grand amour, on n'est plus conscient de ce grand amour. Au lieu d'élever des chants de louange et de reconnaissance à cause de ce grand amour. Ce sont des murmures qui montent vers le ciel. Et Dieu est attristé. Mais lorsque nous comprenons ce grand amour, ce sont des chants de louange et de reconnaissance qui montent vers lui. Amen. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Personne ici ne peut dire qu'il n'est pas aimé d'un grand amour. Si tu ne crois pas cela, tu es un menteur, tu mens. Mais vous dites, mais moi je ne mens pas. Je n'ai jamais dit de mensonge. Si tu crois que Dieu ne t'a pas aimé d'un grand amour, tu mens devant Dieu. Involontairement peut-être, mais tu mens. C'est un mensonge ce que tu dis. Mais moi, il m'a vraiment aimé d'un grand amour. Oui, toi, personnellement, il t'aime d'un grand amour. Amen. Gloire au Seigneur. Et il nous aime. Malgré le mal que nous avons fait et qui mérite le jugement. Voyez-vous, c'est ça l'amour de Dieu. Un jour, j'avais lu l'histoire, une histoire qui s'est passée dans l'armée. C'était un jeune chrétien qui venait de se convertir, son cœur était bouillant pour le Seigneur. Et il a été à l'armée, et là, il a dit, « Seigneur, à l'armée, je ne veux pas te déshonorer, je veux confesser ton nom, je veux être un bon témoin. » Et vous savez ce qu'il faisait chaque soir, avant de s'endormir? Il se mettait à genoux devant son lit et il priait. Il priait le Seigneur. Alors vous pensez bien qu'une telle attitude, ses camarades de chambre, vous croyez qu'ils pouvaient la supporter? Alors bien sûr, les uns et les autres commençaient à se moquer. Et il y avait un sergent aussi qui était là, qui était le responsable de la chambre. Il était là. Il a été, lui, le plus virulent, le plus méchant. Il se moquait de lui. Vraiment, et tous se moquaient de lui. Et un jour, et tous les soirs, il continuait de faire cela. Et un jour, ils étaient tous rentrés de manœuvres qu'ils avaient faites. Et alors, ils avaient tous des brodequins sales. Et alors, ce soir-là, quand il s'est mis à genoux pour prier, le sous-officier qui était là a pris ses brodequins sales et les a jetés sur le jeune chrétien qui était là en train de prier. Et ce jeune chrétien n'a rien dit. Il continuait de prier le Seigneur. Le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Le jeune chrétien avait pris les brodequins de ce sous-officier, il les avait lavés et il les avait cirés et il les avait mis au pied du lit du sous-officier. Quand le sous-officier s'est levé et a vu ses chaussures propres et cirées devant son lit, il a été brisé, il a éclaté en sanglots. Il a été trouvé, ce jeune chrétien, il lui a dit, pardon, pardon, je t'ai fait du mal, pardon. Et ce sous-officier s'est converti, c'est une histoire authentique. Il était touché par ce grand amour de ce jeune chrétien, amen. Comment a-t-il été touché, ce sous-officier? Il méritait autre chose, vous êtes d'accord avec moi? Mais voilà comment ce jeune chrétien a répondu, et c'est ainsi que l'autre a été profondément touché. Chacun d'entre nous, nous avons été comme ce sous-officier, mes amis, ne l'oublions pas. Par nos péchés, nos paroles, nos actions, nous avons jeté nos brodequins sur le Seigneur. Nous l'avons déshonoré, et chaque fois que nous avons fait une mauvaise action, c'est comme si on jetait quelque chose de mauvais sur le Seigneur. Et on méritait le juste jugement de Dieu. Mais Dieu nous a rendu non pas le mal que nous avons fait, mais le bien. Il a été fait malédiction pour nous, afin que nous puissions obtenir la bénédiction divine. Amen. Quel amour! Quel amour! Mes amis, s'il y a quelque chose qui doit nous toucher, qui doit nous renouveler, qui doit constamment alimenter notre foi, c'est le grand amour du Seigneur pour nous. Amen. Beaucoup de chrétiens, je le remarque, ils se lamentent. « Oh, mais moi j'ai l'impression que j'aime peu le Seigneur, que mon amour pour lui est peu. » Je vais te donner un conseil. Quand tu penses que ton amour pour le Seigneur est petit, alors commence à méditer, non pas à ton petit amour pour le Seigneur, mais commence à méditer sur son grand amour pour toi. Amen. Commence à méditer sur son grand amour pour toi. La parole de Dieu ne dit-elle pas, pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Voyez-vous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc nous aimons le Tu dois réaliser cela. Seigneur, merci pour ce grand amour. Et quand il avait les bras ouverts sur la croix, c'était son amour qui était ouvert pour chacun d'entre nous et qui voulait nous dire, tu sais combien je t'aime, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Et quand Le père du fils prodigue a vu le fils venir. Il a étendu ses bras. Il le vit de loin, il est dit, et il eut compassion de son fils. Même il était encore en haillons, dans la saleté, sentait mauvais. Mais lorsque le père a vu le fils, il eut compassion et il courut vers lui. Quel grand amour, car Dieu a tant aimé le monde. Soulignez cela dans vos bibles, tant, et méditez là-dessus. Tant, méditez là-dessus. Méditez là-dessus, car Dieu a tant, tant, tant. C'est l'intensité de l'amour de Dieu. Et nous, bien souvent, quand nous prions, nous faisons quelque chose, on a l'impression, « Ah oui, Jésus m'aime, alléluia, amen. Jésus m'aime, oui. » Et puis dans le fond du cœur, « Oh, je ne suis pas sûr encore, pas sûr. Tiens, aujourd'hui, je viens d'avoir quelques difficultés. Sûrement pas que Dieu m'aime aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça marche ? Alléluia, Seigneur, tu m'aimes. Tu devrais m'aimer un petit peu plus. Hein, parce que... Qu'est-ce que c'est ? Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé. Personnellement, ce qui m'a brisé devant le Seigneur, c'est cela, c'est ce grand amour. Je savais que j'avais mal agi, j'étais enfant de colère, fils de la rébellion, j'avais fait des choses qui ont déshonoré Dieu, je méritais le jugement divin. Et que Dieu ait mis ce jugement sur son Fils à cause de moi, ce que je méritais, c'est le Fils qu'il a eu. C'est ce qui m'a profondément brisé. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans l'Épître aux Romains que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Loin de faire ce que nous voulons, il y en a qui comprennent très mal l'amour de Dieu. Ah bon ? Ah, vous parlez de l'amour de Dieu ? Magnifique ! Alors, Dieu m'aime et je peux faire ce que je veux. Vous savez qu'il y en a beaucoup, même des chrétiens qui ont cette conception-là, parce que Dieu les aime, alléluia, alléluia, on peut faire ce qu'on veut, Dieu me pardonnera toujours, Dieu m'aimera encore. Comment ? Quelle fausse conception de l'amour ! Est-ce que parce que ta femme t'aime, que tu peux faire ce que tu veux ? Ah, tu m'aimes ? Bon, d'accord. Bon, ben voilà, puisque je sais que tu m'aimes, alors, bon, ben, je vais en aimer une autre. Je sais que tu m'aimeras quand même. Ah, vous croyez que ça marche, ça ? Les matchs de boxe vont commencer à la maison. Ou c'est les assiettes qui vont commencer à courir à gauche, à droite. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'elle m'aime, je peux faire ce que je veux. Non, justement, parce qu'elle t'aime. Il y a quelque chose en toi qui doit se passer. Tu dois la respecter d'autant plus. Tu dois d'autant plus faire pour l'aimer aussi et montrer quelque chose qui réjouit son cœur. Amen. C'est cela, la bonne réaction à l'amour. Qu'un chrétien dise, parce que Dieu m'aime, eh bien, et qu'il me pardonnera toujours, je peux faire ce que je veux. Il n'a pas compris l'amour de Dieu. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Nous pousse au pied de la croix et dire, Seigneur, Seigneur, je ne mérite rien que la condamnation et la mort. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour le sang versé, merci pour ta patience, merci, ma vie t'appartient désormais. À l'amour, il n'y a que l'amour qui peut répondre et rien d'autre. La vie chrétienne est avant tout une relation d'amour. Une relation d'amour. La vie chrétienne, c'est une relation d'amour avec le Seigneur. Et si nous perdons cette relation d'amour, nous perdons notre paix, nous perdons notre joie, nous perdons notre assurance, Nous perdons notre vitalité, nous perdons tout. Mais que l'amour revienne. Alléluia. Que le cœur brûle à nouveau pour le Seigneur. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous êtes invincible. Quand l'amour est dans le cœur, personne ne peut vous arrêter. Alléluia. Personne. L'amour est plus fort que la mort. Il nous a aimés d'un grand amour. Mon ami, et il l'a prouvé en donnant sa vie pour toi. Désormais, tu dois donner ta vie pour lui. Lui, il est mort pour toi. Désormais, toi, tu dois vivre pour lui. Il t'a aimé d'un grand amour. Méditons toujours bien cela, mes amis. Et si tu as douté de son amour, parce que tu as jugé l'amour de Dieu au travers des circonstances de ta vie, demande pardon. Demande pardon, humilie-toi devant lui. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, j'ai cru cela. Je te demande pardon, purifie-moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes d'un grand amour. Et vous savez, Romains 8, 37 nous donne une vérité importante. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez-moi ça. Comment pouvons-nous vivre une vie de victoire? Seulement lorsque nous réalisons que nous sommes aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez-vous ce que l'amour produit? L'amour engendre en nous une vie victorieuse. Nous sommes plus que vainqueurs. Voyez-vous, c'est même pas être victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs lorsque nous savons aimer. La vie chrétienne, notre vie chrétienne, sera une vie chrétienne victorieuse et plus que victorieuse, triomphante. Alléluia. Mais laissez-moi dire une chose, mes amis, je pense que vous en avez fait l'expérience. Mais doutez que Dieu vous aime. Qu'il y ait un instant dans votre vie de doute. Ah, mais est-ce que vraiment Dieu m'aime? Parce que ceci, cela, on prie pour moi, je suis toujours malade. Je demande du travail, j'en trouve pas. Je demande ceci, ça va pas. Les enfants sont comme ci, les enfants sont comme ça. Alors, est-ce que Dieu m'aime encore? Ayez de telles pensées, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Vous êtes par terre. Vous êtes par terre. C'est les murmures qui commencent. Il n'y a plus de victoire possible. C'est fini. Parce que vous doutez, ce qu'il ne faut jamais douter. Vous mettez en doute la vérité la plus capitale, la plus libératrice du monde. Il t'a aimé d'un grand amour. Ne dis pas, je ne comprends pas. Personne ne peut comprendre cela. Acceptons-le, disons-lui merci, ne cherche pas à comprendre. Que Dieu m'aime, je ne peux pas le comprendre, c'est impossible, mais il m'aime quand même. Que Dieu t'aime, alors qu'il n'y a rien d'aimable en toi, ça c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, ne cherche pas à mériter son amour. Tu ne mériteras jamais son amour. Au contraire, tu as tout fait pour que son amour ne se manifeste pas, mais il t'aime quand même. Il t'aime malgré tout cela. Et tu ne mériteras jamais cet amour. Tu dois tout simplement l'accepter, le remercier. Et te donner à celui qui t'a aimé d'un si grand amour. Amen. Car on ne peut pas rester insensible devant un tel amour. Amen. Écoutez-moi bien aussi là. Quand on voit certains chrétiens volages, superficiels. Alléluia, Jésus m'aime. Alléluia.
Et puis, ça ne va pas plus loin. Et ils aiment n'importe quoi. N'importe, on ne voit pas que Jésus est tout. S'il t'aime, alors en retour, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Il doit être tout pour toi. Parce que tu es tout pour lui. À cet amour si grand, nous devons répondre par un amour sincère, réel, total, entier. Dieu ne regarde pas tellement à notre perfection, parce que s'il attendait à notre perfection pour nous bénir, il attendrait longtemps. Mais ce que Dieu attend le plus de nous, c'est que nous soyons entiers pour le Seigneur. Les demi-mesures, le Seigneur ne les accepte pas. Les demi-mesures. Nous, on est champions pour faire les dosages, un huitième par-ci. Aujourd'hui, il y a des conversions à un dixième, à un vingtième de conversion. Il y en a qui sont convertis, mais c'est pas du 100%. C'est du 15%, 10%, 8%, 9%, 50%, 55%. Et puis il y en a qui disent, oh, mais moi je suis converti, c'est 75%. Et ils s'en font encore une gloire, c'est pas 75% qu'il faut, c'est 100%. Mais vous dites, moi c'est 99,99. C'est pas suffisant, c'est rien du tout. Dieu dit, mais c'est pas ce que je veux. C'est ce un centième que tu gardes pour toi ou pour quelqu'un d'autre que je réclame. Connais-tu cet amour entier, total et définitif pour le Seigneur? Alléluia! C'est cela qui nous libère aussi, qui nous libère. Un si grand amour. Et la deuxième chose qu'on a vue, l'apôtre dit dans l'Épître aux Hébreux que nous ne devons pas négliger un si grand salut. Voyez-vous, le danger, c'est de négliger, la négligence. Il n'est pas dit ici de qu'on refuse le salut. Il n'est pas dit ici qu'on rejette le salut. Mais il est dit ici qu'on peut négliger ce salut. Voyez-vous, la négligence. Autrement dit, penser à autre chose. Cet amour, ce salut n'est plus prioritaire dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont là en nous. Nous négligeons l'essentiel. Et les choses secondaires prennent la première place, tandis que les choses essentielles prennent la seconde place. Voilà ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. L'essentiel est passé au deuxième plan, et les choses secondaires de la vie sont passées au premier plan. Cet amour, il ne faut pas le négliger. C'est une flamme que nous devons entretenir. Amen. Nous pouvons négliger. Il n'est pas question de rejeter. Il n'est pas question de s'opposer. Mais la simple négligence peut nous éloigner loin du Seigneur. La négligence. Et nous laisser préoccuper par mille et une choses. Et petit à petit, nous nous laissons emporter loin d'elle, comme dit l'apôtre. Nous risquons de nous laisser emporter loin de ce si grand salut. Est-ce que cela n'est pas arrivé à des chrétiens? Malheureusement, cela est possible. Combien de chrétiens ont pris un bon départ, mais maintenant vous ne les voyez plus du tout? N'est-ce pas vrai? Ils ont négligé ce grand salut. Ils l'ont négligé. Et ça s'est fait petit à petit, petit à petit. Une négligence par-ci, une négligence par-là. Et la flamme diminue, la flamme diminue. Mes amis, c'est un grand salut, c'est un grand trésor. Et nous ne devons pas négliger cela. Au contraire, nous devons veiller à ce que cette flamme en nous aille toujours, soit toujours plus pure, plus vraie, plus intense, plus profonde. Alléluia! Il nous avertit que nous ne devons pas négliger ce si grand salut. Ça concerne aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui pensent, parce que elles ne sont pas opposées à l'Évangile, qu'elles sont sympathisantes, que ces personnes sont en ordre avec Dieu. Mais moi, je ne suis pas contre Dieu, voyez-vous. Je ne suis pas contre l'Évangile. Ils peuvent même venir dans les églises. C'est des gens sympathiques. Ils ne s'opposent pas, mais ils ne sont quand même pas sauvés. Ils ne s'opposent pas, mais ils négligent. Ils négligent ce grand salut. Ils n'en tiennent pas absolument compte. Il y a trop de choses dans leur vie. Ils ne sont pas contre, mais ils ne sont pas pour 100%. Et Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voyez-vous ? Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? Oh, mais moi, je ne suis pas contre Jésus. Mais si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Ah, mais moi, je ne suis pas contre lui. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Autrement dit, si tu n'es pas contre lui, tu penses que tu n'es pas contre lui, tu es contre lui parce que tu n'es pas avec lui. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. La négligence, c'est terrible. Dieu a fait de grandes choses. Ne néglige pas cet amour extraordinaire que Dieu t'a manifesté. Car le plus grand des péchés, écoutez-moi bien, parce que beaucoup de gens, au jour du jugement, penseront « Oh, mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait des grands péchés graves, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas fait ces choses-là. » Et ils pensent que devant Dieu, eh bien, cela les justifiera. Le plus grand des péchés, ce n'est pas de tuer, voler, mentir, commettre adultère. Ce sont des péchés, tout cela, qui nous fermeront le ciel si nous les pratiquons. Mais le plus grand des péchés, c'est de dire non, c'est de négliger l'amour de Dieu pour nous, pour toi. C'est de négliger son amour. L'amour qui t'a sauvé. L'amour qui s'est sacrifié pour toi. Néglige cet amour et tu seras perdu éternellement. Parce que cet amour, c'est le remède à ta maladie du péché. C'est le seul remède qui peut te purifier, te guérir et t'ouvrir le ciel. Dire non à l'amour de Dieu, négliger l'amour de Dieu est le plus grand des péchés. Vous pouvez être une personne honnête, une personne apparemment honnête, gentille, sympathique, mais sans accepter l'amour de Dieu pour vous, sans accepter son sacrifice qui seul peut vous sauver, et sans vous donner à lui, c'est la perdition éternelle. Un si grand salut à ne pas négliger. Tu es sur cette terre pour te préparer. Aller à la rencontre de Dieu. Après la mort, c'est terminé. Là encore, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de doctrines étrangères et qui ne sont pas bibliques. Beaucoup de gens pensent qu'après la mort, ils iront au purgatoire. Et là, en faisant des prières pour eux, et bien sûr avec de l'argent, parce que s'il n'y a pas d'argent, ça ne marche pas. Autrement dit, ceux qui n'ont pas d'argent, tant pis pour eux, ils y resteront là-bas. Mais on priera pour moi, et alors de l'âge de ce lieu, je passe, j'irai au ciel. Illusion, mensonge. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Certains pensent au purgatoire après la mort, mais d'autres pensent à la réincarnation. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui pensent qu'après la mort, ils vont passer dans une petite souris. L'autre dans un arbre. Qui vont se réincarner dans un arbre, dans une souris, dans un chat, dans une vache. Et il y a même des hommes intelligents, professeurs, directeurs, inspecteurs. Des inspecteurs qui croient cela. Ils devraient inspecter un peu plus que ça. Ils devraient inspecter un peu plus ce qu'ils croient. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas en règle avec Dieu, c'est le chemin qui mène à la perdition et l'enfer éternel.
Ne négligeons pas ce si grand salut, parce qu'il y a une grande éternité à fuir, loin de Dieu. Un grand jugement qui attend l'homme qui néglige ce si grand salut. Je termine troisièmement. Il nous assure ses grandes et précieuses promesses. Alléluia! Ces précieuses promesses sont grandes, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit concernant son amour, son pardon, la vérité, la sainteté, le ciel, l'enfer, le diable ou les démons ou Dieu et autres, toutes ces paroles sont vraies. Si nous ne croyons pas, c'est à notre perte. Ce que Dieu a dit, sa main l'accomplira. Il y a des précieuses promesses pour ceux qui croient. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Il ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quelle précieuse promesse! Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent, je les connais. Et je leur donne la vie éternelle. Et nul ne les ravira de ma main. Alléluia! Quelle précieuse promesse! Nul ne les ravira de ma main. Reste bien attaché dans la main du Seigneur. Ses promesses sont grandes et précieuses. Nul ne te ravira, ni l'ennemi, ni les hommes, ni les circonstances, ni qui que ce soit ne pourront te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si les autres ne le peuvent pas, toi tu peux, par négligence, dire non, je ne veux plus tenir ta main, Seigneur. Alors là, c'est la chose la plus grave que vous puissiez faire. Mais si tu restes attaché, nul ne te ravira de sa main. Amen. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Partout où tu passes, il est déjà passé. Il est passé. Et il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Partout où tu passes, il est déjà passé. Le disciple accompli sera comme son maître. Le disciple accompli n'est pas plus que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. S'ils m'ont haï, a dit Jésus, ils vous haïront aussi. Je vous ai tout dit d'avance. Croyez en moi. Croyez dans le Père. Je m'en vais. Vous préparez une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai vous chercher. Et il revient bientôt. Et il nous prendra pour être toujours avec lui. Il reprendra tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Tous ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Car Jésus soupire après ta présence auprès de lui. Parce qu'il t'aime. Et quand on aime quelqu'un, on désire être près de cette personne. Amen. On désire être près de cette personne. Des grandes et précieuses promesses. Il y en a tant dans la parole. Elles sont précieuses. Et par elles, tu participes à cette vie divine. C'est ainsi que ta vie sera agréable à Dieu. C'est ainsi que tu pourras vaincre, pardonner, aimer, supporter, obéir, aller de l'avant, parce que tu es animé de la vie divine. Tu participes à cette vie divine. Parce qu'il vit, nous vivons aussi. Que celui qui a cette espérance de son retour se purifie lui-même. Comme lui-même est pur, il revient bientôt. Il y a des grandes et précieuses promesses. Il l'a dit, il reviendrait. Il reviendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Les moqueurs sont nombreux concernant ce retour. Mais ses bien-aimés l'attendent. Et un jour, ils disparaîtront de la terre. Et le jugement alors sera sur ceux qui se sont moqués de lui. Car on ne se moque pas de Dieu. Que le Seigneur nous donne de nous réjouir en lui, dès maintenant et à jamais. Amen.
Thank you.